Alors, soyez les bienvenus dans ce séminaire web qui fait partie de la période de commentaires publics de la deuxième version préliminaire de la proposition du CCWG. Ce séminaire est enregistré, et bien sûr, nous n'allons pas faire l'appel, mais nous vous rappelons de mettre vos téléphones en muet si vous ne parlez pas, et bien sûr, si vous parlez, de dire vos noms pour la transcription et pour que les interprètes puissent vous identifier dans les autres canaux. Nous avons des interprètes pour ce séminaire web d'espagnol, de français, de russe, de chinois, de portugais et d'arabe, si je ne me trompe. Donc nous aurez... Nous aurons des services de traduction qui seront disponibles seulement pour les premiers 90 minutes. Donc si vous perdez le son sur le canal auquel vous êtes connecté, et puis on essaiera de parler doucement pour que vous puissiez suivre sur le canal anglais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les transparents que nous avons préparés. Parfait, merci. Alors, comme vous savez, nous nous trouvons en plein milieu d'un processus parallèle à deux voies, Et vous vous souviendrez que l'année dernière, l'Agence des télécommunications et d'information nationale des États-Unis a annoncé son intention de transférer son rôle de supervision des fonctionnaires à Guyana. Par conséquent, un groupe de coordination a été créé pour pouvoir consolider une proposition à remettre à la NTIA et en même temps, un groupe a été créé pour renforcer la responsabilité de l'ICANN dans le cadre de cette transition pour qu'elle puisse se réaliser. Les trois communautés opérationnelles, donc les communautés des numéros, des noms et des paramètres de protocole, ont commencé à travailler sur l'élaboration de leurs propositions. En décembre de l'année dernière, le CCWG chargé de la responsabilité a été créé avec une charte qui avait été approuvée en octobre. Et nous avons déjà tenu 50 réunions. Aujourd'hui, c'est notre 50e réunion d'ailleurs. Au long de notre travail, nous avons déjà publié une première version préliminaire et une deuxième version préliminaire ce mois dernier qui est ouverte à consultation publique. Nous vous encourageons fortement à lire le document que nous avons préparé et faites-nous parvenir vos commentaires puisque cela est très important pour qu'on puisse continuer à faire notre travail. Comme vous voyez, donc, la NTIA a fait son annonce et dans cette annonce, ils ont inclus les exigences et les critères pour la transition. Et depuis cette annonce, nous travaillons pour l'élaboration de cette proposition. Lorsque nous aurons la version finale de la proposition, nous allons transférer, soumettre cette proposition à la NTIA. Alors, le but de ce groupe de travail est de soumettre une proposition qui renforce la responsabilité de l'ICANN envers toutes ces parties prenantes. Ces parties prenantes comprennent des personnes externes à la communauté de l'ICANN, ce qui sera montré un peu plus tard dans la présentation. Et donc voilà notre but, de préparer une proposition qui renforce la responsabilité de l'ICANN envers toutes ces parties prenantes. Alors, la portée de notre travail est divisée en deux lignes de travail ou pistes de travail. La première desquelles se centre sur les mécanismes pour renforcer la responsabilité de l'ICANN qui sont nécessaires pour assurer la transition de la supervision des fonctions YANA dans les délais. C'est-à-dire que les aspects identifiés ou les facteurs identifiés comme étant nécessaires dans la piste de travail numéro 1 devraient être mis en œuvre avant que la transition ait lieu. D'autre part, il y a une deuxième piste de travail qui se centre sur les questions relatives à la responsabilité pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un certain temps d'élaboration de solutions et de mise en œuvre de ces solutions qui pourraient bien sûr durer au-delà de la période de transition du rôle de supervision des fonctions YANA. Alors, on pourra toujours continuer de travailler dessus une fois que la transition aura eu lieu. Maintenant, je vous rappelle comment s'organise la communauté de l'ICANN. Donc, je vous rappelle que nous avons des organisations de soutien, 3 organisations de soutien spécifiquement, et des comités consultatifs, et un conseil d'administration. Ces 3 groupes sont des parties prenantes qui ont un intérêt à ce que l'ICANN complète sa mission. Les organisations de soutien font des recommandations et les comités consultatifs conseillent ou fournissent leur soutien des différents processus en cours. Ce que nous avons ici est le cadre de responsabilité actuel, comme vous verrez sur l'écran. Vous voyez que la structure générale est formée de 4 briques ou 4 composantes qui forment la responsabilité de l'ICANN. Alors, on s'est demandé quels étaient les mécanismes nécessaires pour renforcer cette responsabilité de l'ICANN. Et nous avons d'une part identifié, donc, comme première composante, la communauté de l'ICANN avec ses 3 organisations de soutien et ses 4 comités consultatifs. D'autre part, on a le conseil d'administration de l'ICANN. Quel est le pouvoir exécutif de la structure de gouvernance? Bien sûr, ils ont également l'autorité d'approuver ou de rejeter les recommandations de politique élaborées par les ESSO et les AC. Et les AC conseillent formellement le conseil d'administration de l'ICANN. En ce moment, le statu quo attendu est que le conseil d'administration puisse modifier les mécanismes en place pour renforcer la responsabilité. Et le conseil d'administration a l'autorité suprême pour pouvoir déterminer quelles sont les décisions à prendre sur certaines questions ou certains domaines de politique spécifiques. D'autre part, une autre composante est celle des principes qui comprend la mission, les engagements et les valeurs clés de l'ICANN qui sont inclus dans ses statuts constitutifs. Quatrièmement, nous avons donc les mécanismes d'appel indépendant. On a déjà des mécanismes d'appel indépendant qui existent aujourd'hui, mais il reste toujours des domaines qu'il faudra améliorer. Et il y a différents aspects ou différents facteurs d'intérêt pour le processus de révision indépendant qui seraient nécessaires pour renforcer la responsabilité de l'organisation. Ici, on a les pistes d'intervention progressive et le statu quo. Dans cette matière, le CCWG Responsabilité a recommandé que l'on donne à la communauté multipartite davantage de pouvoir de gouvernance, davantage de facultés, et il recommande que ces facultés puissent être exercées au cas où la communauté jugerait cela nécessaire. Donc s'il y avait des désaccords significatifs entre le conseil d'administration de l'ICANN et la communauté de l'ICANN, il y aurait différents moyens à travers lesquels la communauté pourrait se faire entendre et exercer les pouvoirs que nous leur avons fournis avec cette proposition. Il est très important de souligner que cette proposition n'interfère point avec les opérations quotidiennes de l'ICAL. Ces facultés ne modifieraient pas non plus le statu quo de la communauté au sein de l'ICAN ou du conseil d'administration de l'ICAN. On donnerait simplement une autonomisation à la communauté. Donc les pouvoirs resteraient tels quels dans ce cadre ou dans cette structure. Donc je vous donne maintenant la parole à mon coprésident qui va présenter la diapo suivante. Léon, au micro, je pense que Thomas est peut-être en muet, je ne le vois pas ici sur le chat. Est-ce possible que vous soyez en muet, Thomas? Il paraît qu'on a des problèmes techniques. Mathieu Vell, il me semble, n'a pas de son non plus. On ne peut pas entendre Thomas. Et donc, on va prendre un moment pour attendre à ce qu'ils résolvent leurs problèmes de son. Et entre-temps, je vais continuer avec ma présentation. Alors, on avance. Donc ici, on a les mécanismes de renforcement de la responsabilité qu'on a proposés. Et nous avons identifié des améliorations. Et ce sont des améliorations à chaque composante qui vont résulter à un renforcement de la responsabilité de l'ICAN. Donc, lorsque vous voyez la communauté habilitée, c'est la même qu'on voyait dans le transparent précédent. Mais ici, cette communauté qui a des pouvoirs est en mesure d'agir si elle le juge nécessaire. Et une des facultés ou des pouvoirs de cette communauté serait la possibilité de réviser ou de rejeter les opérations du conseil d'administration de l'ICAN. Donc cela leur permettrait de réviser ou de rejeter le budget, le plan stratégique et opérationnel ou les statuts constitutifs même. Donc, ils peuvent s'exprimer au sujet des actions du conseil d'administration et peuvent également prendre des mesures dans l'intérêt de la communauté et dans le respect de la mission de l'ICAN. On continue. Alors, oui, Mathieu, c'est vous, on vous écoute. Mathieu Vell prend la parole. Excellent, merci. Léon prend la parole, alors je vous donne la parole. Mathieu prend la parole, alors vous avez fini avec cette diapo? Non, dit Léon, on est en plein milieu de l'explication. Bien, dit Mathieu, alors le point suivant ici est la révision structurelle. ce renforcement a été ajouté lors de la dernière période de consultation, sachant que la communauté autonomisée a élargi ses responsabilités au sein de l'ICANN. Et si la communauté évalue le travail du conseil d'administration et que le conseil a la possibilité d'évaluer l'efficacité du travail des SO et des AC, le conseil doit pouvoir réviser que les conseils consultatifs, comités consultatifs et les organisations de soutien agissent en conformité avec les principes et suivant les méthodes de travail de l'ICANN. Il est important donc de souligner cet aspect de la proposition. C'est le fait que toutes les composantes doivent être responsables, transparentes. Ce n'est pas l'ICANN comme organisation qui doit être la seule responsabilité, la seule organisation responsable et que l'on ait créé d'autres institutions au-delà de cette communauté. Maintenant, la troisième composante est celle des principes. Ces principes seraient les statuts constitutifs de l'ICANN, similaires à la constitution d'un pays. On verra tout à l'heure les modifications proposées à ces statuts constitutifs, y compris la création des statuts fondamentaux. Finalement, en bas à droite, vous voyez la quatrième composante, qui est celle des mécanismes d'appel indépendants. On propose un nouveau mécanisme de révision indépendant avec un panel permanent de 7 membres et une structure qui sera expliquée tout à l'heure pour le renforcement de la responsabilité de l'ICANN. Dans ce diapo, nous allons donc commencer à voir chacune des composantes individuellement. Nous essaierons d'aborder chaque composante dans le détail, bien sûr. Alors, on a ici les principes. D'une part, on s'est dit qu'il était nécessaire d'éclaircir la déclaration de mission de l'ICANN, de décrire quelle est la portée des activités de l'organisation et d'évaluer que les statuts constitutifs respectent cette mission pour que l'ICANN ne puisse pas agir au-delà de cette mission. D'autre part, nous avons les valeurs principales de l'ICANN, bien sûr, qui orientent les décisions et les actions de l'ICANN, et finalement, les affirmations d'engagement, qui sont des engagements entrepris par l'ICANN, pour assurer que la communauté agisse en conformité avec les exigences de la NDIA. On avance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous proposons de créer un nouvel ensemble de statuts constitutifs que l'on appellerait les statuts fondamentaux. Ces statuts fondamentaux auraient une protection spéciale pour garantir que ces articles ne pourront pas être modifiés facilement. Il sera nécessaire de suivre un processus spécifique pour pouvoir le faire. Ce que nous proposons d'ajouter comme statuts fondamentaux sont le système révisé des AOC, donc les révisions des ATRC, et les autres révisions, ainsi que les nouveaux mécanismes proposés et les mécanismes existants. Tout cela se combinerait dans les statuts constitutifs pour la transition du rôle de supervision de la NDIA. L'idée est de prendre les articles des statuts constitutifs qui sont d'importance fondamentale, que l'ICANN veut défendre et d'ajouter que certaines demandes de statut consultatif formulées par le CCWC, outre ses recommandations, ainsi que les recommandations surgies de la révision de responsabilité et des différents processus de révision. Diapositive suivante. La deuxième composante est l'amélioration du processus de révision indépendant, c'est un mécanisme d'appel. On ne parle pas ici de créer un nouveau mécanisme, mais plutôt d'améliorer les mécanismes existants. L'idée est de créer un panel indépendant qui puisse fonctionner indépendamment au sein de l'ICANN. Toute dispute serait gérée par les membres d'un panel permanent, c'est en tout cas le cas pour les appels standards. Et ce panel sera formé d'experts qui vont essayer de concilier les décisions en conflit pour pouvoir traiter certaines questions spécifiques et entendra également des réclamations qui impliquent les droits de la communauté comme membre unique. Alors, pour la formation du panel permanent, on parle de 7 membres qui vont le composer et les membres seront sélectionnés par la communauté organisée dans un effort par l'ICANN. Ce sera donc la communauté qui va proposer les membres et le conseil d'administration ne va que les confirmer. L'idée est d'avoir des personnes expertes en matière juridique et d'assurer une diversité géographique pour qu'il n'y ait pas plus de 2 membres du panel venus de la même région. On avance un peu, on reviendra plus tard si nécessaire. On a ici les mécanismes d'appel. On a donc une demande pour reconsidération à ce sujet. Il serait possible d'élargir la portée de ces demandes de reconsidération existantes de l'ICANN, processus qui aujourd'hui pourrait contredire les valeurs fondamentales ou la mission de l'ICANN à travers ses actions ou inactions. Les réformes clés proposées sont d'élargir la portée des demandes admissibles, de prolonger les délais de présentation des demandes de reconsidération de 15 à 30 jours. On pense également à réformer les fondements pour le rejet immédiat qui doit maintenant être moins large que ce qu'ils sont à présent. On a également ajouté l'exigence au conseil d'administration de l'ICANN que les administrateurs puissent faire ou prendre des décisions sur toutes les demandes. Puis on demande aux médiateurs de l'ICANN de s'occuper de l'évaluation substantive initiale. On fournit aux demandeurs une occasion de pouvoir s'opposer aux recommandations du comité de gouvernance du conseil, entre autres, qui ne sont pas toutes incluses ici, bien sûr. Je vais maintenant donner la parole à Thomas. C'est Thomas Ricker qui parle. Merci Mathieu. Je vais parler des mécanismes de la communauté aujourd'hui. On a évalué le mécanisme de la communauté et nous nous sommes dit que nous devrions créer un mécanisme suffisamment souple pour pouvoir inclure toute cette existence ou cette personnalité juridique dans n'importe quelle juridiction. La communauté devrait pouvoir exercer les pouvoirs qu'on compte lui octroyer. Donc pour cela, il va lui falloir avoir une autorité juridique, une personnalité juridique. En ce moment, nous avons des communautés qui travaillent sur l'élaboration de politiques ou de conseils, de déclarations qu'elle remet au conseil d'administration. Le conseil d'administration va juger ce qui lui semble à partir de cette recommandation de politique. Mais à l'heure actuelle, la communauté n'a pas la possibilité de présenter d'autres demandes ou de prendre des décisions au sujet de ces demandes. On s'est dit qu'il était nécessaire que la communauté qui va recevoir ses pouvoirs devrait avoir également le pouvoir d'une communauté autonome. Elle devrait avoir le pouvoir de pouvoir demander au conseil d'administration de prendre une décision en cas de manquement au statut constitutif. Dans la salle d'Adobe Connect, vous voyez notre présentation et en bas à droite, on a un nuage qui parle du mécanisme de la communauté comme membre unique. Cela implique que l'organisation sera légèrement modifiée et que la communauté sera toujours en mesure d'agir par rapport à ses pouvoirs. Notre modèle d'adhésion devrait donner à chaque SO et AC la possibilité d'avoir une représentation de n'importe quelle forme qui exerce le pouvoir. On a évalué les différents modèles, coopératifs ou exclusifs. Et finalement, on est arrivé à cette idée du mécanisme de la communauté comme membre unique. Cela fait que la communauté, dans l'ensemble, toute la communauté est un seul membre. La communauté est le membre unique de la communauté de l'ICANN. Et nous allons revenir sur les pouvoirs de la communauté dans quelques instants, mais il me semble qu'il est important de noter à ce point-là que ce mécanisme de la communauté permet à la communauté de participer à l'exercice de ses droits. C'est-à-dire qu'un SO, une SO ou un AC ne peut pas agir individuellement ou exercer individuellement ses pouvoirs. Plutôt, la communauté dans l'ensemble doit se mettre d'accord pour agir. Une SO ou un AC individuel pourrait contourner les processus du... et cela pourrait porter atteinte à l'organisation. Et maintenant, avec ce mécanisme de membre unique, composer des SO et des AC ne permet à la communauté d'exercer ses droits que en coordination. À travers cette proposition, nous éliminons donc la possibilité d'avoir un AC ou une SO rebelle qui paralyse ce pouvoir de la communauté de l'ICANN. Donc voilà le mécanisme que nous comptons utiliser pour permettre à la communauté d'exercer ses pouvoirs tout en garantissant que le conseil d'administration va agir comme nécessaire et qu'il n'y aura pas un groupe, un comité ou une organisation rebelle qui agisse dans son propre intérêt. Plutôt, la communauté va devoir suivre ses pouvoirs communautaires.
Bien, quels sont ces pouvoirs de la communauté? Pendant notre travail, nous avons réalisé une liste de choses que la communauté devrait être capable de faire. Nous avons regroupé ces choses. souhaits hein, qui nous semblaient importants et ce que nous avons aussi tiré de la période de commentaires publics organisée par ICANN et lorsque la communauté nous a donné donc son opinion sur la responsabilité. Nous avons analysé tout cela donc et nous avons abordé ces cinq pouvoirs de la communauté, à savoir le premier, le pouvoir de la communauté de demander au Conseil de reconsidérer le budget ou le plan opérationnel et stratégique ou de le rejeter. Il est important de savoir que cela aurait lieu une fois que le Conseil aurait présenté le budget. La communauté trouve que le Conseil a ignoré ce que la communauté avait demandé et à ce moment-là, la communauté peut choisir, en fonction du processus que nous allons voir ensuite, peut décider de rejeter le budget et de demander au Conseil de refaire ce budget en tenant compte de ce que la communauté souhaitait. Le deuxième pouvoir sera celui de reconsidérer ou de demander au Conseil de reconsidérer ou de rejeter des changements dans les statuts standards de l'ICANN. Rappelez-vous que nous avons deux types de statuts, les statuts donc courants et les statuts fondamentaux. Nous voulons que ces statuts fondamentaux soient plus solide que les statuts courants, qu'il y ait deux mécanismes différents en fonction de chacun de ces statuts. Pour les statuts courants, on aura un processus de consultation de la communauté. Le conseil de l'ICANN va vouloir faire une modification dans le statut, va publier cela et si la communauté pense que ce n'est pas ce qu'ils avaient décidé, ce n'est pas ce que la communauté avait discuté avec le Conseil, à ce moment-là, ces changements dans les statuts seront rejetés. Et nous verrons ce processus dans un moment. Ensuite, les statuts fondamentaux, comme vous vous en souvenez, sont des statuts qui, à notre avis, sont tellement importants pour l'ICANN qu'ils doivent être, il doit y avoir un statut, un seuil supérieur pour ces statuts fondamentaux pour les modifier. Et un de ces statuts fondamentaux pourrait être les engagements de la mission, les valeurs fondamentales. Pensons un peu que l'ICANN veuille faire une modification dans ce sens. Et à ce moment-là, cela serait considéré comme quelque chose ayant trait à la mission de l'ICANN. Et à ce moment-là, la communauté doit donner son avis. On veut s'assurer que ces types de choses ne pourront être faites que si la communauté veut que cela ait lieu. Et nous voulons nous assurer que la communauté soit d'accord avec ces changements, les approuve avant que le Conseil prenne cette décision. Donc les statuts courants pourront être modifiés, mais pour les statuts fondamentaux, ils doivent être approuvés par la communauté avant d'être adoptés par le Conseil de l'ICANN. Les deux derniers pouvoirs de la communauté sont celui de congédier les conseils des directeurs de l'ICANN s'ils font des choses qui violent les statuts et qui entraînent une préoccupation à la sein de la communauté. La communauté a la possibilité de congédier le conseil de directeurs et a aussi la possibilité donc de congédier certaines personnes de ce conseil ou le conseil dans sa totalité. Voyons maintenant comment ces pouvoirs sont opérationnels. Prochaine diapo. Bien, il y a un modèle ou une approche pertinente lorsqu'il s'agit d'exercer ces pouvoirs de la possibilité. Ici, vous voyez sur cette diapo un résumé des différentes phases que nous devons mettre en œuvre pour exercer les pouvoirs de la communauté. Ensuite, nous allons vous donner des exemples des pouvoirs de la communauté, nous allons illustrer cela. Mais ce que vous voyez ici, si nous allons de gauche à droite, vous voyez qu'il y a une cause qui fait que quelqu'un veut invoquer ce pouvoir de la communauté. Il doit y avoir un problème. Donc, à partir de là, j'espère que nous ne verrons jamais ce type de pouvoir de la communauté appliqué parce que cela veut dire qu'il y a un problème au niveau du conseil et que et un problème fondamental est entré en jeu. Hein. Mais nous espérons donc que si le budget, et s'il y a un accord pour le budget avec la communauté n'aura pas besoin de contester les actions du conseil. Mais mettons qu'il y ait un problème, une préoccupation. À ce moment-là, une requête va être déposée en fonction donc du pouvoir de la communauté invoquée, ça peut être une SO ou une AC ou davantage. Et une fois que cette requête a été présentée avec succès, après que plusieurs SO ou AC aient dit nous avons un problème et nous devons en parler, ils vont se réunir et dans ce que nous appelons un forum de la communauté, qui est ce n'est pas une entité légale, c'est un endroit informel dans lequel les SO et les AC vont pouvoir se réunir pour parler, pour discuter de choses importantes, pour être sûr que tout le monde soit sur le même niveau et, les mêmes informations avant de prendre une décision. Et la décision sera prise dans la phase 3, mais les SO et les AC qui ont des droits de vote vont discuter la façon dont ils veulent régler ce problème. Et vous allez voir dans les diapos suivantes, il est important de savoir de toute façon que nous n'avons pas des représentants qui votent, c'est-à-dire des personnes qui vont aller dans des forums de la communauté ou appliquer des mécanismes de la communauté qui vont voter. Hein. Nous avons certains votes qui sont alloués à des SO et des AC, et ces SO et ces AC vont discuter de la façon dont ils veulent voter et distribuer leurs votes. Ils vont annoncer ensuite aux SO et aux AC et à leur président à travers les mécanismes de la communauté comment ils vont voter, comment est-ce qu'ils vont distribuer leurs votes. Donc ceux qui connaissent le système de la communauté européenne, du Conseil européen, savent que le système de distribution de votes dépend en fonction des différents pays et en fonction des entités des différents pays qui vont dire nous voulons que, par exemple, le Royaume-Uni ait tant de votes. Hein. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas des personnes qui vont voter, mais un groupe de SO et de AC qui vont voter. Ils peuvent se mettre d'accord, on peut avoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, hein. Comment est-ce que les SO et les AC vont prendre cette décision dépend d'eux et dépend de la façon dont ils veulent exercer ces pouvoirs, cette capacité de vote qu'ils ont. Ensuite, une fois que cette décision est prise, ou bien le seuil de vote requis n'est pas atteint et rien n'a lieu, mais si ce seuil de vote est atteint, à ce moment-là, il va y avoir un résultat qui pourrait être que le conseil de l'ICANN va devoir revoir la décision qui a été prise. Bien. Maintenant, je passe à la diapo suivante. Ici, vous voyez un exemple, l'exemple d'une possibilité pour la communauté de rejeter des changements dans les standards courants de l'ICANN, les standards communs de l'ICANN. Hein. Bien. Donc, la communauté pense que la modification des statuts qui a été faite et adoptée par une résolution du Conseil de l'ICANN n'était pas correcte et donc ils vont faire une requête. Hein. Cette requête va être déposée, la requête d'une SO ou d'une AC va être ensuite, il va y avoir une discussion qui va avoir lieu et la communauté va se réunir et va préparer une décision et à ce moment-là, lorsque la décision est prise, seulement les deux tiers la majorité à deux tiers est nécessaire pour que les mécanismes de la communauté soient déclenchés et à ce moment-là, le résultat sera que le conseil devra modifier la décision qui avait été prise. Prochaine diapo. Ici, nous avons la révocation du conseil de l'ICANN dans sa totalité. Ici, le mécanisme est un peu différent, donc nous avons une cause. Mettons que le conseil prend des décisions qui ne sont pas acceptables par la communauté. La communauté pense que ces décisions violent les statuts de l'ICANN. Dans ce cas-là, une SO ou une AC peut présenter une requête, mais il faut au moins deux SO ou deux AC, ou une SO et une AC pour pouvoir le faire. Ensuite, il va y avoir la discussion qui va avoir lieu, puis la décision sera prise. 75% de tous les votes sont nécessaires pour que la motion soit adoptée et le résultat sera que le conseil intérimaire sera révoqué et qu'un autre conseil va siéger immédiatement parce qu'on sait que lorsqu'il s'agit de voter, les SO et les AC doivent avoir la possibilité de remplacer donc le conseil dans sa totalité pour une situation de ce type. Ici, nous avons l'influence sur les mécanismes communautaires. Les SO et les AC, comme par exemple ESSEC et RSEC, ont deux votes. SSAC et RSSAC ont deux votes. Ensuite, le GAC aura un vote par région géographique. Donc, nous avons différentes nécessités ici, différentes exigences qui ont été tenues, dont on a tenu compte. Ici, nous avons deux types de mécanismes. Le mécanisme communautaire n'est pas quelque chose de séparé. Il va être visible. Et, comme j'aime l'appeler, c'est une manière de voter en fonction des statuts et les SO et les AC ne vont pas se réunir, ils ne vont pas être un groupe dans lequel les personnes vont se réunir. Ça ne va pas avoir lieu comme ça. On ne va pas avoir des individus qui auront un droit de vote. Mais si les SO et les AC que nous se réunissent et votent, si c'est le cas, donc le pouvoir de la communauté doit être exercé. Et à ce moment-là, ici, je vais donner la parole à Mathieu qui va nous expliquer la suite des diapos. Merci beaucoup Thomas, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais être rapide, je sais que vous aurez sûrement des questions à poser. Hein. Donc je vais vous laisser la parole. Une grande partie de notre rapport vise à fournir une série d'analyses de problèmes qui peuvent surgir. Donc, nous en avons parlé dans notre charte. Nous sommes à votre disposition. Et nous avons fait quelques changements. Nous avons démontré aussi là où les problèmes pourraient surgir concernant la responsabilité de l'ICANN. Prochaine diapo, je vais vous parler de ce qui pourrait se passer une fois que l'axe de travail numéro 1 sera terminé. Hein. Je voudrais vous donner un peu de clarté sur ce qui se passera après, les aspects clés, les éléments qui sont considérés dans l'axe de travail numéro 2. Il y a une série de points. Il y a, par exemple, les commentaires publics et leurs résultats, le commentaire public numéro 1, les résultats. Ensuite, il y a le renforcement de la responsabilité des SO et des AC, les SO et des AC, les mécanismes de transparence et la possibilité d'intégrer les droits de l'homme dans les opérations de l'ICANN, entre autres choses. Donc, c'est le type de thème que nous allons analyser, sur lesquels nous avons travaillé. Et pour donc la deuxième partie de notre travail, c'est-à-dire l'axe de travail numéro 2, vous voyez sur le bas de cette diapo un échéancier, un calendrier. Ici, donc après la période de commentaires publics qui finit le 12 septembre, nous voulons finir le rapport de manière à ce qu'il soit considéré par les organisations membres et à Dublin lors de la réunion d'ICANN 54. Et ensuite, l'axe de travail numéro 2 va s'étendre sur une année supplémentaire et en termes de développement et de mise en œuvre. Donc, je vais répondre un petit peu comme ça aux questions concernant le calendrier. Prochaine diapo maintenant. Et un point, un aspect très important qui est présent dans notre travail et qui est le lien avec le CWG Supervision et la possibilité de satisfaire à leurs nécessités et de répondre à leurs propositions. Ces conditions, c'est une condition pour nous que nous avons vraiment, dont nous avons vraiment tenu compte. La communauté peut rejeter le budget, peut révoquer les membres du conseil, peut... Nous sommes prêts à incorporer dans les statuts de l'ICANN différents éléments recommandés par le CWG et c'est la coopération qui est en cours actuellement. En ce qui concerne les mécanismes qui seraient inclus dans les donc statuts fondamentaux, on en a parlé déjà, et le comité de révision indépendant donc pourra être accessible pour les gestionnaires de CLD. Donc nous avons travaillé avec le CWG Supervision, nous avons répondu à leurs demandes et je pense qu'il y a eu une bonne coopération qui a eu lieu avec le CWG Supervision. Et je pense que cette description de notre proposition est complète. Je vais maintenant donner la parole à Thomas qui va donc introduire la partie de questions et de réponses. Nous allons vous donner la parole. Bien. Nous allons donc passer au rapport individuel, à la partie individuelle de notre rapport. Je vais donner la parole au public pour les questions et les réponses. Nous allons discuter les engagements de la mission, les valeurs fondamentales. Ensuite, nous parlerons des statuts fondamentaux. Nous vous donnerons la parole pour les questions sur les IRP, la demande de reconsidération, les mécanismes de la communauté, les cinq pouvoirs de la communauté. Puis nous parlerons aussi des analyses de risque et de la relation avec le CWG. Je vais vous demander de poser des questions qui sont liées aux sections que je viens de citer dans cet ordre-là, parce que comme ça, le groupe pourra vous suivre. Donc, nous allons d'abord parler de la mission, des engagements et des valeurs fondamentales pour bien comprendre quels sont les changements qui sont proposés. Et je vais donner la parole à Becky Burke qui va nous faire une petite récapitulation dans ce sens. Merci beaucoup, Mathieu. C'est Becky Burke qui prend la parole. Les aspects les plus importants dans ce domaine, dans le domaine de la mission, des engagements et des valeurs fondamentales, sont celles de la mission d'ICANN avec une série d'engagements et de valeurs fondamentales. Et tout cela est finalement le cœur de la responsabilité de l'ICANN. Et la mission que ICANN doit mener à bien et les engagements et les valeurs fondamentales qui sont très importantes dans le processus de partie prenante, le processus ascendant et la sécurité, la stabilité de l'Internet, la diversité, la prise de décision aussi au sein de l'ICANN. Et la donc je pense que cela est important pour éclaircir, pour préciser la mission de l'ICANN. Il y a donc les statuts qui existent actuellement. Nous allons faire circuler une version de ces statuts tels qu'ils seront dans le futur. Merci beaucoup, Becky. Est-ce qu'il y a des questions sur donc la mission, les engagements et les valeurs fondamentales? Si vous n'êtes pas dans l'audio, dans le pont de l'audio, dites-le nous, nous vous donnerons la parole, demandez la parole. Il y a eu des questions qui ont été posées dans les webinaires précédentes que vous trouverez sur notre espace wiki. Nous avons regroupé sur notre site internet et donc les questions que vous posez peuvent déjà avoir été posées et toute la communauté sera au courant donc de vos préoccupations et de la réponse que nous avons donnée à vos questions. Donc, vous trouverez tout cela sur le site et sur la page Wiki. Alors, est-ce qu'il y a des questions donc sur la mission, les engagements et les valeurs fondamentales? Nous allons, si vous avez des questions par la suite sur ces points, nous y reviendrons. Mais en attendant, nous allons passer aux statuts fondamentaux, ces statuts donc qui nous paraissent importants de renforcer de façon à ce que leur changement ne soit pas aussi aisé que cela, et c'est un point important pour la communauté. La communauté pourra donner son avis donc en ce qui concerne les modifications à apporter et dans ces statuts fondamentaux. Si vous pensez que ce que nous avons fait était une bonne idée, vous pouvez aussi le dire. Vous pouvez le dire dans la chat, dans le... Bien. Vous pouvez confirmer que le travail que nous avons fait vous paraît et donc opportun. Bien. Alors, votre soutien est aussi apprécié dans notre groupe, hein? Bien, nous avons la première question. Une fois que les nouveaux statuts sont approuvés, est-ce que la communauté peut suggérer des changements dans ces statuts de base ou dans les statuts fondamentaux? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que vous voulez répondre à cette question, Becky? Je pense que la communauté pourra proposer des statuts pour les statuts standards ou les statuts fondamentaux une fois que des modifications ont été faites. Je pense que c'est possible. Bien. J'ai une réponse. Oui, la communauté peut modifier ses statuts à travers un PDP ou une déclaration de la communauté. Et c'est le cas aujourd'hui. Et le processus formel qui existe actuellement pour les changements des statuts, ce sont des pouvoirs qui existent. Il n'y aura pas de changement dans ce domaine pour ce qui concerne les statuts donc courants. Hein. Le changement aura lieu dans le domaine des statuts fondamentaux pour le cas où le Conseil voudrait faire une modification dans ses statuts fondamentaux. À ce moment-là, nous aurons une situation qui va changer. Nous avons trois autres questions dans le chat. Je vais répondre à la première. Et ensuite, Jordan, je vais vous demander de répondre à la question de Scott. Et ensuite, on passera à la question de Mark. Donc, Caboos a demandé si la communauté peut faire cela ou est-ce que ce problème est reflété dans la proposition. Et je pense que la réponse la plus simple à cela, c'est que il est interdit, si la communauté pense qu'il est nécessaire de faire un changement dans les statuts, une fois qu'un changement a été fait, on peut avoir recours, on peut recommencer ce processus au début et refaire une modification dans les statuts en collaboration avec le Conseil. Donc, c'est applicable pour les statuts courants et les statuts fondamentaux. Le processus de modification du statut peut être fait à multiples reprises. Et en ce qui concerne la question où est le problème, la communauté doit aborder cette question, la communauté peut modifier le même point du statut à plusieurs reprises. Et cela peut avoir lieu à plusieurs reprises et pour certains pouvoirs de la communauté, nous avons instauré des dispositions pour exercer ces pouvoirs pour que cela ne soit pas fait de manière abusive. Donc, Camus, j'espère que j'ai répondu à votre question. La prochaine question était une question de Scott. je vais la lire pour ceux qui sont qui ne peuvent pas lire. Est-ce que les processus de développement de politique sont les statuts fondamentaux? Non, ce n'est pas la proposition. Ils vont rester et comme statuts standards. Mais nous avons le système de développement de politique ascendant et cela pourrait mener à une remise en question des décisions du Conseil. Alors, la question de Marc, est-ce qu'il y a une évolution de la CAN dans le domaine du DNS qui est en jeu ici? Je dirais que la réponse est non. Notre groupe voulait que certaines parties des statuts, les statuts fondamentaux soient plus robustes pour que ICANN ne puisse pas modifier cela et qu'il n'y ait pas de dérive dans le domaine de la politique, de la technologie. Hein. Mais nous sommes conscients du fait que ICANN fonctionne dans un monde qui change rapidement, dans un environnement qui change rapidement et que des changements au sein de l'ICANN pourraient être nécessaires de façon à ce qu'ICANN puisse continuer à répondre à sa mission à travers le temps. Et les changements des statuts de l'ICANN, y compris les changements dans ses statuts fondamentaux, pourraient être faits. Mais cela demanderait un certain niveau de difficulté supérieure. Bien. Il y a une autre question. Ça vous dit, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas autorisé. Je suggère que l'on en parle ensuite ensemble, mais je dirais que notre système est plus ouvert, donc nous ne donnons pas des limites concernant le pouvoir communautaire, le pouvoir de la communauté. C'est notre idée. Ce processus existe aujourd'hui déjà. Hein. Le Conseil ne peut pas faire un changement de statut après l'autre. La différence, c'est que la communauté aura la possibilité de donner son opinion là-dessus. Je vais demander à mes collègues si j'ai oublié des questions dans le chat. Si c'est le cas, je pense que nous allons devoir passer au thème suivant, qui serait le processus de révision indépendante. Si vous avez des questions sur ce point-là, sur donc le processus de révision indépendant ou IRP. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce processus de reconsidération maintenant, sur la demande ou la requête pour la reconsidération? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Ou demande de révision, hein? Bien. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser par la suite. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Et si vous êtes d'accord, nous allons passer au prochain point qui sont les mécanismes de la communauté, le modèle de membre unique. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais, pour une question de clarté, dire que le pouvoir de la communauté, les pouvoirs communautaires sont différents du modèle de membre unique. Ce sont deux domaines différents et les pouvoirs communautaires peuvent être donnés à la communauté et il n'est pas nécessaire qu'il y ait donc quelqu'un qui mette en œuvre, qui applique ces pouvoirs-là. Il est différent. Si la communauté souhaite que ces pouvoirs de la communauté soient appliqués, si le conseil choisit d'ignorer les résultats des mécanismes de la communauté, disons une décision prise par la communauté selon laquelle il voudrait qu'un statut standard soit rejeté, le conseil peut ignorer cela. Mais quels sont les mécanismes de progression qui existent? Qu'est-ce que la communauté peut utiliser comme mécanisme? Et là, le veto légal est nécessaire. Les systèmes légaux sont différents. Nous pouvons avoir le modèle de membre unique qui a été proposé et cela aurait à ce moment-là des conséquences importantes. Bien, je vois qu'il y a des questions. Il y a une question de Brandon, dans quelle mesure le mécanisme de la communauté de membres uniques dépend des ressources de l'ICANN. Je ne sais pas si... Je pense qu'on n'aurait pas besoin de ressources pour les SO et pour les assises pour se réunir aujourd'hui. On peut discuter de cela, on peut discuter de cela dans une salle ou à distance, peu importe, mais le modèle à membre unique ou les mécanismes communautaires sont un domaine dans lequel le vote peut avoir lieu de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème, puisque nous n'allons pas ajouter de complexité. Les SO et les AC se réunissent aujourd'hui déjà et nous pensons que nous ne voulons pas modifier cela, que cela ne sera pas modifié dans le nouveau modèle. Il y a une nouvelle question de Carlos. Cela signifie que les pouvoirs de la communauté sont exercés d'une autre manière. Il n'y a pas de vote. Non, ce que je dis, c'est que la communauté peut voter. Mais dans tous les cas, la communauté va voter. Mais seulement dans les cas où un moyen légal est nécessaire. Et dans ce cas-là, qui montre qu'on a vu que le modèle de membre unique était le moyen le plus légal, le plus approprié pour ce type de situation. Nous avons une autre question. Alors, de Arti, du point de vue légal, qui figure comme membre, qui exactement figure comme membre ou est considéré comme membre? Bien, je dois dire que il nous faut revenir au statut pour répondre à cette question. Donc, si vous acceptez, je répondrai à cette question plus tard. Mais je pense que ce sera une description de ce que est exactement un membre à part entière ou un membre unique. Il faudra voir un membre de l'ICANN et un membre unique, quelle est la différence entre les deux. Je répondrai à cette question donc plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire, donc nous allons leur laisser le temps de répondre, de poser leur question, pardon. Alors, quelles sont les clauses pour la loi californienne qui s'applique aux membres uniques et quelles sont leurs obligations et leurs responsabilités? C'est difficile de répondre, mais pour essayer de résumé dans notre rapport, nous avons fait une liste des pouvoirs obligatoires et de la façon dont cela fonctionne en fonction dans notre proposition. Donc je voudrais que l'on fasse une action à suivre pour notre coprésident pour y répondre par la suite, pour donner plus de précision. Je vois que Mathieu Veil a répondu dans le chat. Et donc, vous trouvez cela à la page 173 du rapport. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marc, s'il y a un problème d'intérêt public abordé dans la requête, est-ce qu'il peut y avoir une obligation pour demander au GAC de donner son avis ou d'obtenir un avis du SSAC formel avant de voter et pour les AC qui ne participeront pas? Je pense que actuellement, il n'y a pas, d'exigence pour demander cet avis, mais cela ne va pas être modifié. Et le conseil va prendre une décision, il va recevoir des informations d'un comité de conseil avant de prendre cette décision, et les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, le comité consultatif va offrir son avis, par exemple le GAC va donner son avis après et que une décision ait été prise, et ensuite on va suivre la procédure décrite dans les statuts. Donc je pense que selon la procédure, le conseil et le GAC doivent trouver des solutions lorsqu'il y a un problème après la mise en œuvre d'une décision ou après qu'une décision soit prise. Anne? Spécifier la question, vous parlez de responsabilité, de pouvoir. Je vois que Jordan a répondu déjà à cette question. La plupart sont des obligations et des responsabilités qui figurent dans les statuts de l'ICANN, et les autres droits statutaires seront restreints dans les statuts et dans les articles du règlement où requièrent des mécanismes de la communauté dans leur ensemble. Et vous dites aussi que les participants dans les mécanismes de la communauté sont responsables de leurs actions. C'est le résumé de ce que nous avons analysé. C'est le résumé de ce que nous avons recommandé. Il lit ce qui figure dans le chat. Il y a une question de nouveau de Anne. Je pense qu'on pourrait peut-être y répondre plus tard, puisqu'elle est très très légale. Donc nous allons laisser cette question pour plus tard. Nous y répondrons pour plus tard par écrit. Nous en parlerons avec notre conseil légal. Mais je dirais que nous avons, et on nous a recommandé, le conseil légal nous a recommandé, et qu'il n'y ait pas de responsabilité. Et donc, nous n'allons pas faire de modifications, nous n'allons pas ajouter des responsabilités pour ceux qui deviennent actifs dans la communauté de l'ICANN. Bien. Donc, on a répondu à la question de Anne. Il y a ensuite une autre question qu'elles nous répondront par la suite. Les mécanismes de la communauté et les pouvoirs de la communauté. Maintenant, ce sera notre prochain point. Est-ce qu'il y a des questions concernant le premier pouvoir de la communauté pour donc rejeter ou reconsidérer le budget ou le plan opérationnel ou le plan stratégique? Est-ce qu'il y a donc des commentaires ou des questions sur ce point-là? Vous avez la parole. Bien. Il y a Tijani qui lève la main. Tijani, vous avez la parole. Merci, Thomas. C'est une question qui porte sur le pouvoir de la communauté en général. Vous avez dit qu'un forum de la communauté est une structure informelle qui n'est pas officielle. Je ne considère pas cela comme cela. Je pense que c'est une structure officielle de la communauté qui est liée à la prise de décision. C'est un lieu de discussion pour la communauté et nous en avons besoin. Il est nécessaire. Donc je pense qu'il n'est pas informel. Nous devons discuter dans ce forum parce que c'est de cette façon que nous allons pouvoir résoudre les problèmes. Donc, je ne suis pas d'accord dans ce sens et je pense que nous ne devons pas dire qu'il s'agit d'un forum informel. Il faut définir cela dans notre statut pour que ce forum soit vraiment effectif, efficient. Deuxième point, sur ses pouvoirs, vous avez dit qu'il y a trois étapes pour exercer le pouvoir de la communauté. La requête, la discussion et la prise de décision. Il y a une question que l'on peut se poser. Qui va coordonner cela? Qui va définir le niveau de la requête, qui va recevoir la requête, qui va considérer la requête comme valide, qui va nous informer et l'ouverture, la date d'ouverture de la discussion et sa durée, qui va connecter les résultats de tout cela, qui dirige et tout cela au niveau du conseil de l'ICANN et au niveau du personnel de l'ICANN. Je pense que quelqu'un devrait coordonner tout cela. Et pourquoi pas proposer que le président du forum de la communauté s'occupe de coordonner cela. Merci. Merci beaucoup, Tijani. C'est une très bonne idée, dit Thomas. Et je pense qu'on pourrait essayer de rentrer un petit peu plus dans cette question. Alors, en ce qui concerne le premier point, je pense qu'il est important de faire une différence entre les mécanismes de la communauté et les forums de la communauté. Les mécanismes de la communauté sont, c'est le lieu, si vous le voulez, où tout cela fonctionne et maintenu. Il n'y a pas de réunion physique, un organe en lui-même, c'est seulement un moyen. Le forum de la communauté, par contre, est un endroit où les discussions ont lieu. Et je vais décrire ce forum comme non pas une entité additionnelle ou un endroit informel dans lequel ces discussions auraient lieu, mais on pourrait créer une structure parallèle au sein de l'ICANN. Les SO et les AC vont se réunir et on pourrait se mettre d'accord, les présidents des SO et des AC se mettent d'accord pour avoir une discussion vendredi. Ce ne sera pas quelque chose, un forum institutionnalisé, un organe qui pourrait créer, qui pourrait donner davantage de complexité au niveau légal. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième point que vous avez abordé, le processus, on pourrait le définir et il y aurait peut-être de bonnes raisons pour faire cela. Et si la communauté nous demande de rendre tout cela formel, d'organiser cela formel, je pense que nous pouvons le faire. Mais rappelez-vous que aujourd'hui, dans ce processus de transition, ce processus a été lancé par les SO et les AC. Les présidents des SO et des AC se sont réunis et ils ont créé le groupe intercommunautaire, le groupe de travail intercommunautaire. Donc vous voyez que les SO et les AC sont capables de gérer ce processus. Il n'est pas nécessaire de le formaliser. Donc je vais donner la possibilité à d'autres d'intervenir ici et je vais voir d'abord s'il y a des questions supplémentaires au niveau du chat. Il y a une question de Scott en ce qui concerne les pouvoirs de la communauté. Est-ce que la communauté a le pouvoir de révoquer le président individuellement, de manière individuelle? C'est la question posée par Scott. Voyons. Alors, John, vous voulez répondre? Je peux répondre. Ok, je vais y répondre. Jordan, la réponse est non. Le président et le CEO et leur rôle sont liés un statut d'emploi. Et donc, ce n'est pas possible. Cette personne, donc, est une personne qui est employée par le conseil et donc a un statut d'employé et donc c'est quelque chose qui est spécifiquement exclu et cette personne ne peut pas être révoquée. Hein. Merci beaucoup Jordan. Kabou, je demande la parole. Donc, Tijani, d'abord, je ne voulais pas ignorer l'importance de la discussion qui a lieu dans le forum de la communauté. Hein. Seulement, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de formalisation légale, d'organe légal qui est à gérer ici ou existant ici. Kabouche, vous avez la parole. Kabouche, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Bien. Je voulais revenir au problème que j'ai abordé et à la réponse que vous avez donnée. Et vous m'avez donnée qui ne me paraît pas convaincante. Vous avez dit qu'on en parlerait plus tard. Je ne suis pas d'accord. Donc, s'il vous plaît, une fois que vous aurez fini, donnez la réponse à ma question. Merci. Merci, Kabou. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ces pouvoirs de la communauté, sur le plan, le budget ou le plan opérationnel et les plans stratégiques? S'il n'y a pas de questions concernant ce pouvoir de la communauté, Kabous, vous avez la parole sur le pouvoir numéro 2. Oui, excusez-moi, Kabous prend la parole. La question que j'ai posée était, est-ce que la communauté a le pouvoir de proposer une modification, un amendement, c'est important, un amendement au statut constitutif ou au statut fondamental? Cela, je répète ce que vous avez dit, le CCWG Responsabilité ne propose pas que la communauté ait le pouvoir de proposer directement des changements dans les statuts. C'est ce qui figure dans le point 2 à la page 277. Donc, en tant que modèle de membre unique, est-ce que cela pourrait être sujet à un seuil de vote supérieur? Le problème qui, concernant les statuts, qui est la constitution de tout notre processus, cela n'appartient pas à l'ICANN, cela appartient à la communauté. Donc, la communauté devrait pouvoir mentionner dans sa proposition qu'elle a le pouvoir de proposer des changements dans les statuts constitutifs ou dans les statuts fondamentaux. Je pense que cela devrait être précisé parce que le CCWG ne propose pas que la communauté ait ce pouvoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne propose pas que la communauté ait ce pouvoir? Et ce pouvoir, la communauté devrait avoir le pouvoir de faire cela. C'est la constitution de l'ensemble du processus. Hein. Ce n'est pas seulement à l'ICANN, la communauté devrait avoir ce pouvoir et cela devrait figurer dans le deuxième, dans la proposition. Hein? Que la communauté ait la possibilité de faire cela, pas seulement le conseil. Que la communauté ait la possibilité de changer les statuts constitutifs ou les statuts fondamentaux. Pourquoi est-ce que cela ne figure pas dans votre proposition? Merci, j'ai fini. Merci beaucoup, Kabouche.
Jordan, est-ce que vous voulez que je réponde? Oui, je vous demanderai de répondre. Merci.
Merci. Merci, Kavouche, pour cette question. Bien, pour être clair, ce que nous ne proposons pas, c'est des mécanismes pour proposer des changements dans les statuts. Nous ne proposons pas à la communauté d'avoir ce pouvoir parce que ce système qui donnerait lieu au changement dans le statut, hein, j'imagine qu'il y a différentes manières de mettre en œuvre des changements dans ces statuts. Il y a un bruit sur la ligne. Est-ce que c'est vous, Kabous, qui êtes en train d'écrire? Bien, merci. Donc, il y a différentes manières de faire cela et c'est une question de commentaire, hein, pour qu'il soit disponible. Les changements actuels des statuts sont applicables tels qu'ils sont dans le nouveau processus proposé par le CCWG et comme cela figure dans notre proposition, hein, il nous semble que la communauté peut faire ce type de modification, à notre avis. Merci beaucoup, Jordan. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, alors. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire dans le chat. Bien, je pense que nous allons ouvrir que nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez parler directement de tout ce qui a été donc mentionné ici. Nous avons ici la diapo des pouvoirs de la communauté, mais si vous avez des questions à poser sur d'autres diapos présentées, vous pouvez le faire. Marc a posé une question dans le chat. Est-ce qu'il y aura davantage de détails à Dublin sur la manière dont cela va fonctionner et s'il y a des possibilités pour faire appel? La suggestion est au point 355. Je propose qu'on en parle plus tard et qu'on en parle dans sur notre page. Notre groupe n'a pas encore fait son ordre du jour pour la réunion de Dublin. Nous ne voulons pas prioriser cela à Dublin. Il y aura des sessions sur lesquelles on va parler de l'engagement et en fonction des résultats de la deuxième période de commentaires publics que nous recevrons. Il y a des discussions qui continuent dans le chat entre Kabous et Jordan et je pense que nous devrions reprendre un petit peu ce point-là. Pour résumer, pour ceux qui ne peuvent pas lire, nous ne voulons pas modifier la façon dont les changements de statut fonctionnent. Nous n'avons pas considéré, nous ne voulons pas faire une prescription, donner un pouvoir supplémentaire à la communauté pour donc faire ces modifications dans les statuts, mais cela n'empêche pas que les modifications du statut constitutif ou fondamentaux soient déclenchées par la communauté et que le Conseil soit obligé de d'accepter cela et de les effectuer. Bien. Est-ce que nous avons d'autres questions concernant les mécanismes donc des pouvoirs de la communauté? On parle toujours du forum de la communauté. Ce point est noté. Nous allons nous assurer d'en parler et de préparer quelque chose lors de notre prochain appel et de mettre cela dans l'ordre du jour. Il n'y a plus de questions donc sur les pouvoirs de la communauté. Nous allons maintenant passer
au point suivant, c'est-à-dire analyse de risque. Est-ce que vous avez des questions sur les analyses de risque?
Donc, ces analyses de risque sont conçues de manière à pouvoir analyser et savoir si ICANN est protégé contre des imprévus. Il y a plusieurs scénarios qui ont été envisagés et chacun donc appartient à une catégorie d'imprévus. Donc, nous avons analysé le fait que la responsabilité, le système, les mécanismes de responsabilité nous permettent de répondre à des menaces ou à des imprévus. Si ce n'était pas le cas, nous avons analysé et les propositions faites pour modifier l'architecture de façon et pour voir si elles étaient suffisamment correctes pour répondre aux imprévus. Et dans notre groupe, nous avons pensé que tous les imprévus et toutes les analyses de risque que nous avons faites sont des réponses adéquates pour donc les différents types d'imprévus que nous avons envisagés. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant les analyses de risque que nous avons effectuées? Nous avons une question de Brandon que je vais lire. Plus de questions sur la discussion de mécanismes de la communauté. Est-ce que ICANN peut ignorer une décision des mécanismes de la communauté comme membre unique? Comment est-ce que ce membre unique peut donc être conforme? Est-ce que c'est seulement une option? Est-ce qu'il a seulement l'option de révoquer le conseil? Ensuite, Thomas, il y a écrit Thomas pour plus tard. Alors, je vais demander au rapporteur si quelqu'un veut répondre à cette question de me le dire. Est-ce que quelqu'un, un des membres du groupe veut répondre à cette question? Jordan dit, je peux répondre à la question de Brandon. Brandon, la question que vous avez posée, est-ce que ICANN peut ignorer une décision du mécanisme de membre unique? Et le reste de votre question, si le conseil n'obéit pas hein, à ce système de membres uniques. Ce mécanisme va pouvoir requérir qu'une décision soit prise, par exemple, révoquer le conseil de directeur et en nommer un autre, de façon à ce que les directeurs puissent faire valoir leurs droits devant la cour et devant un tribunal. Et c'est un scénario un peu impossible, mais de toute façon, cela fonctionnerait comme ça. Ce serait donc la réponse à votre question. Merci beaucoup, Jordan. Il y a une autre question de James. Nous avons un mémo qui indiquait que ICANN pourrait aussi financer des actions. Ce n'est pas lié à cela, hein? En ajouté, les mécanismes de la communauté de Californie peuvent poursuivre ou obtenir une injonction. C'est correct. Donc, se présenter devant un tribunal ne serait pas l'option préférée par notre communauté. Donc, nous avons ajouté un niveau de sécurité pour qu'il ne soit pas nécessaire de passer devant les tribunaux, d'arriver devant un procès devant les tribunaux. Brandon exprime notre préoccupation. Il dit qu'il comprend que cela est applicable, mais il se demande si le mécanisme de
membres uniques sont suffisamment solides pour accomplir cela. Je pense que ce serait bien d'avoir davantage de commentaires sur ce qui, à votre avis, manque, parce que quand il s'agit de ressources, par exemple, nous avons les pouvoirs de la un pouvoir de la communauté qui pour la communauté peut voir ou superviser que des résultats ou des ressources adéquates ont été allouées à ce domaine au niveau du budget, et si le conseil n'est pas d'accord avec cela, à ce moment-là, le budget et les mécanismes de la communauté qui travaillent sur le budget pourraient être invoqués. Et je pense que je vais passer à ce que dit Anne, qui dit que le membre unique peut avoir besoin de réserves financières allouées et à l'extérieur du budget de la CAN, et cela peut être fourni par l'allocation de fonds ou l'assignation de fonds dans le cadre du budget, et la communauté a la possibilité de prendre une décision dans ce sens. Bien. Bien, je m'excuse et je tousse, donc je m'en excuse. Bien, la proposition de Anne, soutenue par Tim, était que cela pourrait venir du budget à l'extérieur, un budget extérieur ou notre budget, hein, ce ne serait pas le budget de ICANN. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Bien, alors, donc, analyse de risque est le dernier domaine dont nous devons discuter, et la relation avec le CWPG. Il y a une question de Scott. Quel est le statut de la clause de statut intérimaire au sein de l'acte de travail numéro 2? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Thomas, je peux répondre si vous voulez. C'est Mathieu qui prend la parole. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, Mathieu. Allez-y. Bien. Donc, à la page 120 du rapport se trouve la recommandation pour adopter une clause intérimaire pour donc appliquer les recommandations du CWG et du CCWG, et ce groupe de travail a été créé pour donc renforcer la responsabilité de l'ICANN, et cela est considéré le statut actuel de cette clause, et j'espère que je réponds à la question de Scott. En tout cas, j'essaie, hein, il trouvera cela à la page 121 du rapport, en tout cas. Hein. Merci beaucoup, Mathieu. Bien, donc nous prenons note de la suggestion faite par Anne. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, il y a une question de Barbara Warner qui dit « Je ne comprends pas très bien comment et où le problème des droits de l'homme sera abordé. » Mathieu, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Bien. Alors, je dirais que nous avons La communauté, et en ce qui concerne la question des droits de l'homme, la communauté pense que cet aspect doit être abordé. Une équipe a été créée récemment et nous travaillons actuellement sur deux points. Le premier sera les langues, hein, pour que donc le statut comprenne ou intègre cette idée des droits de l'homme. De manière, pour le moment, on travaille là-dessus de manière vague parce qu'on n'a pas encore contemplé cette question de la terminologie. Hein. Nous avons fait donc un travail préliminaire, mais nous n'avons pas encore vraiment de consensus. Premier point. Deuxième point, les justifications et concernant ce qui doit être fait dans le domaine des droits de l'homme, et tout cela devrait être prêt et devrait être inclus dans nos recommandations finales et serait dans le paquet qui va être présenté au SOEAC lors de la réunion de Dublin. Et nous avons fait une analyse en profondeur des droits de l'homme dans le développement de politique de l'ICANN et les différents domaines, et cela va figurer dans notre axe de travail numéro 2. Cela sera abordé ici. Il y a une question de Mathieu, une question. Est-ce que vous pourriez parler sur ce qui a lieu dans le domaine de la mise en œuvre de l'axe de travail numéro 2? Alors, j'essaye de voir. Je peux prendre cette question, oui. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo numéro 18, s'il vous plaît, dit Mathieu. Je pense que c'est là que se trouve la réponse à cette question. Donc, la mise en œuvre de l'axe de travail numéro 2, et lorsqu'on aura présenté les rapports au SOEAC lors de la réunion de Dublin, en ce moment-là, on aura des recommandations certaines recommandations vont commencer à être et la partie de la mise en œuvre va dépendre de ce qui va être le contenu de notre proposition. Nous sommes en train de lancer la première étape de travail sur ce point-là et en même temps, et la mise en œuvre de l'axe de travail numéro 2 va et correspondre avec le développement de l'axe de travail numéro 2. Nous allons anticiper et inclure deux périodes de commentaires de 15 jours à de 40 jours, pardon, de façon à ce que la fin des recommandations ait lieu après la discussion avec la communauté. Et ensuite, la mise en œuvre de l'axe de travail 2 aura lieu. Et je pense que c'est là que, pour le moment, nous en sommes là. Sur ce point-là, donc, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question de Mathieu et de Jorge. Quelle est la portée du deuxième point des éléments considérés dans l'axe de travail numéro 2? Merci Jorge, c'est une bonne question. Je pense que je vais d'abord consulter notre proposition pour être sûr, notre rapport pour être sûr de ne pas me tromper, pas faire d'erreur. Il me faut retourner à notre travail. Ce n'est pas très clair dans notre rapport, je l'admets. Hein. Nous allons vous fournir une réponse ultérieurement. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Jorge, pour cette question. Donc, nous reviendrons sur ce point et nous donnerons la réponse à cette question dans notre foire aux questions qui sera publiée sur la page wiki. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, il n'y en a pas. Si vous avez d'autres questions à poser après ce webinaire, envoyez les questions au co-président ou au personnel de la CAN. Et nous y répondrons. Et elles seront publiées pour que toute la communauté puisse les lire. seront publiées dans le document de foire aux questions. Il est important aussi que tout le monde comprenne ce que l'on suggère. Notre groupe a fait une série de clauses. Nous avons travaillé en profondeur, mais nous savons que les membres de la communauté n'ont pas suivi nos délibérations de près, comme nous l'avons fait. Donc, si vous avez des questions, faites-les nous savoir. Nous voulons que tout le monde puisse comprendre, qu'il n'y ait pas de soucis, de préoccupations à cause d'un manque d'informations ou à cause d'une mauvaise interprétation des informations. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas notre proposition, ce que nous voulons donc mettre en place, posez vos questions. Si votre organisation, si votre groupe souhaite que nous vous expliquions davantage ce que notre proposition, dites-le nous, et nous organiserons cela. Il est important de parvenir à un consensus sur ce point. Vous savez que nous devons réaliser un travail. C'est une question compliquée. Nous avons une période de temps pour réaliser ce travail. Il y a probablement des domaines dans lesquels nous avons oublié certaines choses. Donc, nous avons besoin de votre soutien, de votre contribution. Nous n'avons pas besoin seulement de préoccupations. Nous avons aussi besoin de votre soutien. Donc, si vous pensez que nous avons fait un bon travail, dites-le nous aussi. Hein? Et dites-le dans la période de commentaires publics. Profitez-en pour le dire. Donc, je pense que c'est important que l'on ait votre contribution dans tous les domaines, que vous nous preniez contact avec nous, que vous nous disiez ce que vous pensez. Le dialogue est important. Et on voudrait qu'il y ait davantage de dialogue en face à face lors de la réunion de Dublin. Hein. Nous aurons une session d'échange à Dublin pour qu'il puisse y avoir, pour que vous puissiez poser vos questions. Mais vous pouvez aussi poser vos questions avant, au cours de ce processus, pour être sûr que vos préoccupations, vos commentaires soient donc abordés et dans notre rapport. Hein. Bien, il y a une autre question de Gangesh, rapide question sur l'IRP, qui décide si une décision des trois membres du panel mérite qu'un panel dans sa totalité soit réuni. Il y a des questions sur des sections spécifiques qui sont posées à nos rapporteurs. Peut-être que Becky peut répondre à cette question. Becky Burr, si vous êtes ici, est-ce que vous pourrez y répondre? Becky est là, mais elle n'a pas la possibilité de prendre la parole. Donc, Gangesh, j'espère que vous aurez une minute de patience. Votre question... Nous y répondrons dans cette foire aux questions qui sera publiée sur notre wiki, sur notre page wiki. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, nous allons conclure cet appel. Je voudrais remercier notre groupe, les rapporteurs pour le travail qu'ils ont réalisé sur ces propositions et remercier aussi le personnel de l'ICANN, les interprètes qui permettent donc que ce webinaire soit efficace et soit diffusé en plusieurs langues. Merci à vous tous pour votre participation et vos questions. J'espère que je pourrai lire vos commentaires et vos contributions dans les journées à venir. Merci beaucoup et au revoir.